Bonjour David, bonjour à tous. C'est une expérimentation qui est menée depuis le début de ce mois dans notre département. L'hôpital de Niort a mis en place une unité mobile de téléconsultation. Toujours au chapitre médical, l'IFSI de Thouars, l'Institut de formation en soins infirmiers, s'apprête à déménager pour les locaux actuels du centre de psychiatrie. Un Vierzonais, vainqueur hier de la première étape du Tour Poitou-Charentes, parti de Choret, Marc Sarrault s'est imposé au sprint à Périgny en Charente-Maritime. Cholet Basket, prêt à entamer une nouvelle saison parmi l'élite du basket hexagonal. Le recrutement est en effet bouclé. Quant à la météo, du plein soleil pour ce mercredi après-midi. C'est donc nouveau en Deux-Sèvres. Plutôt que d'aller aux urgences, une unité mobile peut se déplacer à votre domicile. C'est en effet un outil pour désengorger les urgences et permettre aux personnes isolées d'être prises en charge. Dans notre département, une unité mobile de téléconsultation est en test depuis le début de ce mois d'août. L'expérimentation est pour l'instant prévue pour 2 mois. Objectif avec le docteur Aoued Kadour, responsable des urgences à l'hôpital de Niort.
Elle a été mise surtout pour éviter le recours systématique aux urgences. Donc ça permet aux personnes qui ont besoin de soins en ambulatoire, n'auront pas recours aux urgences. Ils appellent le 15. Au 15, la régulation, comme vous le savez, là, depuis quelque temps, il y a la régulation médecine générale et la médecine d'urgence. Donc ça tombe sur l'un ou l'autre. On peut déclencher quand il n'y a pas besoin du recours à une équipe SMUR ou aux urgences directement, en s'assurant que le médecin traitant de la personne concernée n'est pas joignable ou ne peut prendre la personne dans un délai très court. Donc on déclenche cette unité pour assurer une consultation.
Cette unité mobile peut intervenir de 10 à 20 heures. Une infirmière se déplace ainsi au chevet du patient. Elle fait des examens qu'elle transmet instantanément à des médecins à distance qui déterminent la suite à donner. Dans le véhicule, une mallette avec des outils médicaux connectés, stéthoscope pour ausculter à distance, otoscope pour regarder dans l'oreille, un électrocardiogramme à distance ou une échographie sont également possibles. Premier bilan avec le docteur Kadour, toujours interrogé par Boris Blé.
Oui, ça fait 10 jours qu'on a commencé. Donc, ça a commencé progressivement par 3 interventions. Et là, depuis 2 jours, on frôle les 7 consultations par jour. Et ça a confirmé la diminution de recours aux urgences de façon systématique.
Les services d'urgence espèrent d'ores et déjà la prolongation de l'expérimentation sur octobre et novembre. L'IFSI de Thouars se prépare à glisser vers l'ancien hôpital, établissement emblématique du Nord de Sèvres. L'Institut de formation en soins infirmiers, encore appelé école d'infirmières, accueille près de 300 étudiantes et étudiants en soins infirmiers et aides-soignants. Cet institut, qui fête ses 45 ans, envisage en effet de quitter la ville ancienne pour déménager vers le site de l'ancien hôpital de Thouars. Il s'agira d'un jeu de chaises musicales en quelque sorte, car le centre de formation s'implantera dans les locaux actuels du centre de psychiatrie qui, lui, sera totalement reconstruit tout à côté pour se moderniser. Président du conseil de surveillance du centre hospitalier Nord de Sèvres, le maire de Thouars, Bernard Pénaud, se réjouit de la concomitance de ces deux projets et de micro-collines de Dominique Hérault.
On est vraiment sur deux projets différents puisque l'un est porté par le centre hospitalier Nord de Sèvres, c'est la construction de la psychiatrie, et l'IFSI, on est dans le domaine de la formation et c'est la région Nouvelle-Aquitaine, donc là c'est un financement région. Les locaux de l'ancienne psychiatrie ne sont plus adaptés pour la psychiatrie d'aujourd'hui, par contre ce sont des locaux qui n'ont pas 70 ans, hein. Ils méritent sûrement un peu de rénovation pour recevoir un institut de formation. Il y a peut-être des modifications importantes à faire. Il y a la construction d'un amphi et tout ça, quand ça sera mis bout à bout, ça fera sûrement quand même plusieurs millions. Aujourd'hui, on est trop en amont pour avancer un chiffre. Autant il y a des avancées sur le projet de reconstruction de la psychiatrie, autant l'institution d'infirmiers mérite encore des analyses pour dire, l'idée est bonne, on a un bâtiment, serait dommage de le détruire puis d'en construire un autre, ça coûtera toujours moins cher, mais par contre, les montants ne sont pas connus.
Ce déménagement de l'IFSI vers l'ancien hôpital est loin d'être négatif pour le territoire touarcé, selon le maire Bernard Pénaud.
Ça n'a pas d'inconvénient par rapport au fait qu'il ne soit plus en cœur de ville, puisqu'on disait, mais les infirmières, elles habitent en ville, elles continueront à habiter en ville, parce qu'on ne peut pas habiter sur le site de l'hôpital. Donc il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a que des avantages. Et la conséquence, c'est qu'on libère un endroit en cœur de ville, qui est un bel endroit, avec une vue sur la vallée du Touet, en plein à côté de l'hôtel de ville, qui aujourd'hui nécessitera une réflexion pour l'usage qui en sera fait. C'est un patrimoine qui a de l'intérêt. Donc il est intéressant de déplacer ici pour les raisons que je viens de dire, mais il est intéressant aussi d'éventuellement imaginer qu'on récupère un bâtiment pour un potentiel dont l'usage n'est absolument pas défini à l'heure qu'il est, mais qui est un tel potentiel que ça peut être que positif.
Un clin d'œil d'histoire, l'école d'infirmières se situe en effet à quelques dizaines de mètres de la maison où devait être créée une résidence senior de 80 logements, un projet de 10 millions d'euros qui s'est replié dans les cartons après des incompréhensions avec le service des bâtiments de France. La libération de ce bâtiment pourrait de fait intéresser des investisseurs, mais pas avant le déménagement de l'IPSI vers l'hôpital à l'horizon de 3 à 5 ans selon une évaluation du maire de Thouars. Reportage de Dominique Hérault. Le départ de Stéphanie Charrier, la directrice de Pôle emploi Bressuire, va en effet quitter son poste à la fin de ce mois d'août pour prendre de nouvelles fonctions dès le 1er septembre en tant que chargée de relations partenariales au sein de la direction territoriale Poitou de Pôle emploi qui regroupe les Deux-Sèvres et la Vienne. Sa remplaçante Dorothée O'Neill est actuellement manager au Pôle emploi de Cholet. Une nouvelle sortie en famille avec une visite estivale ce mercredi. Le rendez-vous est donné à 18h ce soir par vie de l'hôtel de ville à Mauléon pour une visite historico-hystérique assurée par la compagnie Ça va sans dire. Fred Billy, improvisateur hors pair, vous fera découvrir cette cité de petite cité de caractère qu'est Mauléon sous un autre angle, celui de l'humour, du décalé, mais avec un semblant de vérité. À noter une dégustation de produits locaux après la visite avec la complicité de la ferme Couton & Co. et d'Isabelle Rousselot. On en arrive à l'actualité sportive. Le 36e tour au Poitou-Charentes s'était lancé hier en fin de matinée de Chauray pour rallier Périgny en Charente-Maritime, devant d'ailleurs un départ qui s'est effectué devant un très large public. L'épreuve récompense souvent les sprinteurs et cette première étape n'a pas fait exception. Marc Sarro d'AG2R Citroën l'a remporté, bien aidé par son coéquipier Oliver Nyssen au terme des 193 km bouclés à plus de 45 km/h de moyenne. Le vainqueur, Marc Sarro.
On a fait un super travail d'équipe et surtout Oliver en dernier. C'était pas facile de rester groupé parce que ça frottait beaucoup, mais Oliver a fait vraiment un gros boulot et voilà, entre guillemets, j'ai eu qu'à sprinter. J'ai dû lancer mon sprint à 250 mètres, mais avant j'avais pas fait d'efforts superflus, donc j'étais encore entre guillemets frais et j'ai pu faire un sprint au maximum de mes possibilités. Il y a eu la victoire au bout, donc c'est super pour tout le monde. Bah, mon objectif personnel et de l'équipe, c'est encore d'aller chercher des victoires d'étape et puis après de faire au mieux dans le chrono. Il y a quand même des grosses pointures, donc ça va être difficile pour notamment Oliver et Aurélien Paré-Pinte d'aller chercher la victoire au général, mais voilà, le but pour eux va être de faire un bon chrono et d'être opportuniste sur les étapes et d'aller chercher des victoires d'étape s'il y a encore des sprints.
Le Vierzonais Marc Sarro, vainqueur de la première étape du 36e TPC, ce dernier fait en l'occurrence coup double en prenant également le maillot blanc de leader du classement général. Au programme de ce mercredi pour les coureurs, 195 km entre Périgny en Charente-Maritime et Vars en Charente. À Cholet Basket, tout est prêt pour le lancement de la saison. Un effectif attractif est déjà au complet et une bonne nouvelle, l'attribution de l'organisation du tournoi qualificatif pour la FIBA Europe Cup que nous évoquions d'ailleurs ici même il y a quelques jours. Une équipe à forte connotation française, seulement 4 joueurs étrangers, même si cela n'était pas une volonté délibérée. L'équipe s'est constitué en fonction des opportunités du marché, même s'il a fallu digérer le départ pour Monaco de Johan Makoundou. Écoutez-le, le coach de Cholet Basket, Laurent Villa.
C'était facile de voir les joueurs qu'il nous fallait, le marché on le connaissait bien, les choses sont passées assez vite d'ailleurs pour certaines signatures. On a misé sur un joueur, on a parlé à son agent, on a parlé au joueur, trois jours après il était signé quoi. Donc parfois ça prend beaucoup plus de temps, parfois il faut aller jusqu'au dixième proposition pour avoir un joueur. Donc là, les choses sont vraiment très bien passées. La volonté de construire sur la continuité, c'est aussi, par exemple, sur TJ Campbell, Dominique Artis et Boris Dallot. Bon, ben, voilà, il a fallu conclure avec les contrats, mais il n'y a pas besoin de chercher plus que ça. Il y a juste à entretenir une bonne relation, se dire quand est-ce qu'on va pouvoir le faire, attendre des échéances, aussi de savoir quels étaient les objectifs du club, la capacité à faire l'Europe ou pas. Et une fois que tout était aligné, ben, voilà, on a concrétisé.
Cholet Basket, qui accueille pour cette rentrée un nouveau directeur administratif, en la personne de Cédric Colbeau. Ce dernier est également au micro Colline de Vincent Nori.
Basketteur passionné déjà, amoureux du sport, mais basketteur passionné aussi. Donc voilà, la conjonction des deux aujourd'hui me va bien. Oui. Alors c'est vraiment des missions de structuration et de développement. Continuer à développer des projets au quotidien, effectivement, comme on pourrait parler de la salle de la Meilleraie, rendre l'expérience fan, on va dire, un peu meilleure, ou continuer de l'améliorer en tout cas, ajouter des petites choses, voilà, et continuer à imaginer des projets un peu plus structurants, ou de développement, de ressources, voilà, de communication, travailler sur le digital, être un club moderne, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent les unes à côté des autres, donc, et alimenter effectivement l'image, entre guillemets, de Cholet Basket, et continuer enfin, à faire de Cholet Basket une référence, on va dire, à une marque, entre guillemets, à part entière.
Cédric Colbeau, nouveau directeur administratif de Cholet Basket. Rappelons que le tournoi préliminaire pour accéder à la phase de poule de la FIBA Europe Cup se disputera à domicile pour Cholet Basket, puisque la salle de la Meilleraie a été choisie comme site hôte de ce tournoi qui se déroulera du 27 au 30 septembre. En attendant, CB se déplace demain soir à Montaigu pour un match amical face à Nantes Hermine Basket, formation de Pro B, sans doute sans l'américain Justin Patton. Après une arrivée retardée en raison d'un problème de passeport, le nouveau pivot Scholte fait maintenant face à des problèmes de santé. Il a chopé une infection, pour reprendre les mots du coach. En tout cas, en levée de rideau demain, les espoirs de Cholet Basket seront opposés aux espoirs nantais. Une information pratique avant la météo, des travaux de réfection de l'enrobé et la réalisation d'un plateau ralentisseur vont être réalisés devant les écoles de Clazé lundi et mardi prochain. En conséquence, la circulation sera interdite durant ces deux jours. Une déviation sera mise en place par les services du département des Deux-Sèvres.